soir à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 30 septembre 2014, en direct du Studio 13 à Washington, chez Robin Dorsil et Morgane Guériac. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Chérubin, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire, en RDC, débute demain le procès des assassins présumés du colonel Mamadou Ndala.
Le procès va se dérouler normalement, mais quant à la crédibilité du jugement à rendre à la fin, pour raisonner les pincettes.
À suivre, les commentaires du journaliste Nikes Kibel-Beloka.
Au Libéria, les étudiants demandent à être associés dans la lutte contre Ebola.
Appel au calme à Hong Kong, mais les activistes ne décollèrent pas contre la Chine, accusée de ne pas tenir ses promesses de démocratie.
Après des mois de report, l'Afghanistan signe finalement un accord de sécurité avec les États-Unis.
Les services chargés de la protection du président américain sur la sellette au Congrès.
Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission.
Mais d'abord, le journal.
En République démocratique du Congo, Eugène Diomine Dongola a déposé une plainte devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU pour tenter d'obtenir l'annulation de sa peine. Cet opposant congolais a été condamné à 10 ans de prison ferme pour viol sur mineur. Si sa plainte est jugée recevable, le comité pourrait se prononcer au bout de 2 ans, a fait savoir le Bureau des droits de l'homme de l'ONU.
Procès d'Uhuru Kenyatta à la Cour pénale internationale, la CPI a rejeté une requête visant à exempter le président kényan d'assister à une audience à La Haye le 8 octobre. Le président Kenyatta, 52 ans, est soupçonné de crimes contre l'humanité pour son rôle présumé dans les violences post-électorales de 2007-2008 qui avaient fait plus de 1000 morts.
En Afrique du Sud, le procès pour corruption intenté à Julius Malema a été reporté au 3 août l'année prochaine. L'ancien président de la Ligue de jeunesse du parti ANC est mis en cause dans une affaire de détournement de millions de fonds publics. On fait le point avec Jacques Aristide.
Le controversé opposant sud-africain de 33 ans est accusé d'avoir reçu quelque 392 000 dollars en 2009 provenant d'un contrat gouvernemental de plus de 4 millions de dollars avant même qu'un appel d'offres ne soit publié. L'argent était destiné aux routes de la province natale de Julius Malema. Il nie les accusations qui sont selon lui politiquement motivées. Exclu de l'ANC en 2012, le leader du nouveau parti anticapitaliste Economic Freedom Fighters avait vertement critiqué le président Jacob Zuma il y a un mois au Parlement, le sommant de rendre l'argent public qu'il a utilisé pour rénover son ranch. Malema devait être jugé jusqu'au 31 octobre. Le parquet expliquait le renvoi par l'indisponibilité de certains avocats. Le député pourrait perdre son siège au Parlement s'il est condamné. La procédure risque toutefois de durer très longtemps dans la mesure où la Constitution sud-africaine prévoit de nombreuses voies de recours.
Des ravisseurs de l'otage français Hervé Gourdel, décapité en Algérie, ont été identifiés. C'est ce qu'annonce le ministre algérien de la Justice, cité par l'agence France-Presse.
En Égypte, condamnation de 68 partisans de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi. Ils écopent de peines allant de 10 à 15 ans de prison pour participation à une manifestation violente l'an dernier. Mohamed Morsi a été chassé du pouvoir en juillet 2013 par l'actuel président Abdel Fattah al-Sissi, qui était à l'époque le chef de l'armée. Depuis sa destitution, ses partisans sont la cible d'une répression qui a fait près de 1400 morts et quelques 15 000 prisonniers.
Présidentielle tunisienne, 27 candidats sont en lice pour l'élection du 23 novembre. Parmi eux, une femme et les responsables de l'ancien régime de Ben Ali et Moncef Marzouki qui avait été élu fin 2011. C'est la première fois que les Tunisiens sont convoqués aux urnes pour élire leur chef d'État depuis la révolution qui a chassé Ben Ali du pouvoir.
Et aux Comores, des centaines de fonctionnaires ont organisé une marche pacifique à Moroni pour dénoncer le non-paiement de salaires depuis 3 mois et les répressions politiques dans l'administration.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, témoignage aujourd'hui au Congrès de la chef du service secret, le Secret Service, en rapport avec l'intrusion ce mois-ci d'un individu dans la Maison-Blanche, Mme Julia Pearson, dont les services assurent la protection de la famille présidentielle et des dignitaires étrangers, a qualifié l'incident d'inacceptable. Les précisions de Michel Joseph.
Lors d'une audition à la Chambre des représentants, Mme Julia Person a dit qu'elle assume l'entière responsabilité de l'entrée illégale d'Omar Gonzalez à la Maison-Blanche le 19 septembre dernier. Armé d'un couteau pliable, cet ancien soldat de 42 ans a déjoué la vigilance des services de sécurité pour escalader la clôture. Il est entré par la porte principale, renversant un agent de sécurité dans l'un des bâtiments les plus sécurisés de Washington avant d'être neutralisé. La famille présidentielle était absente. Julia Person, chef du service secret américain.
Clear that our security plan was not properly executed.
Il est clair que notre plan de sécurité n'a pas été correctement exécuté. Cela est inacceptable. J'en assume l'entière responsabilité et je veillerai à ce que cela ne se répète plus jamais. Madame Pearson a été nommée pour remettre de l'ordre au sein du Secret Service, qui a déjà été secoué par divers scandales ces dernières années.
L'Afghanistan a signé un accord de sécurité bilatéral avec les États-Unis. 12 500 soldats étrangers vont rester dans le pays en 2015, alors que le mandat de la force de l'OTAN arrive à terme en décembre. Idriss Fall.
L'accord de sécurité bilatéral, longtemps attendu par Washington, a été signé à Kaboul par l'ambassadeur américain James Cunningham et Hanif Atmar, conseiller afghan à la sécurité nationale. Près de 12 500 soldats américains, allemands, italiens et d'autres pays de l'OTAN pourront ainsi rester dans le pays en 2015. Actuellement, il y a quelque 41 000 soldats étrangers contre 130 000 en 2012. À la fin de la mission de combat de l'OTAN le 31 décembre, une nouvelle mission baptisée Resolute Support ou Soutien Résolu va se concentrer sur l'entraînement et l'appui aux forces afghanes. Après la signature, le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a aussitôt réagi sur Twitter, disant « Mort à l'Amérique ». Le nouveau président Ashraf Ghani, dans son discours d'investiture lundi, avait appelé les insurgés à rejoindre des pourparlers de paix. En réponse, les talibans ont revendiqué un attentat suicide qui a fait le même jour 7 morts à Kaboul.
Nouvelle journée de manifestation à Hong Kong où les opposants pro-démocratie sont restés fortement mobilisés à la veille de la fête nationale chinoise. Claire Morin-Gibourg. Le Monde aujourd'hui, en direct de Washington sur la Voie de l'Amérique, chez Robin Dorsil, en compagnie de Morgan Guiriec. Les combattants kurdes irakiens ont lancé plusieurs attaques contre les positions de l'État islamique avec l'appui de l'armée irakienne et la coalition dirigée par les États-Unis. 11 frappes aériennes hier et aujourd'hui ont ciblé le bastion des djihadistes dans le nord-ouest de l'Irak. En Syrie, les frappes ont détruit des pièces d'artillerie et des lance-roquettes près de la ville de Kobané. Malgré la campagne militaire, les combattants de l'État islamique étaient aux portes de la ville, près de la frontière turque. Et nous revenons sur les manifestations à Hong Kong avec Claire Morin-Gibourg.
Des dizaines de milliers de manifestants ont convergé à la nuit tombée vers le quartier financier de Hong Kong, proche du siège du gouvernement. Plusieurs quartiers, carrefours et des grands axes routiers ont été complètement bloqués. Sous une pluie battante, ils ont, encore une fois, sorti leurs parapluies multicolores qui les avaient protégés contre les gaz lacrymogènes de la police le week-end dernier. Les protestataires ont juré d'occuper le cœur de la ville tant qu'ils n'auront pas obtenu les réformes politiques promises après la rétrocession à la Chine de l'ancienne colonie britannique en 1997. L'énormité de la foule a pris de court les autorités chinoises qui ont de nouveau appelé à l'arrêt des manifestations. Londres a demandé l'ouverture de discussions constructives entre les deux parties et Washington les appelle à la retenue.
Le programme alimentaire mondial va devoir cesser ses distributions de nourriture aux Syriens d'ici 2 mois s'il ne trouve pas de financement supplémentaire, a indiqué aujourd'hui la patronne des opérations humanitaires de l'ONU, Valérie Amos. Le PAM avait annoncé une telle réduction à la mi-septembre à cause d'un manque de fonds. L'agence a besoin de 352 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Selon l'ONU, 11 millions de personnes à l'intérieur de la Syrie ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, dont plus de 6,5 millions de déplacés.
Le président Barack Obama et le nouveau Premier ministre indien Narendra Modi ont convenu de collaborer en vue d'étendre la coopération entre leurs deux pays dans les domaines du commerce, des investissements, de la technologie et de la sécurité. Ils se sont entretenus aujourd'hui après un dîner hier soir à la Maison-Blanche.
Les sanctions de l'Union européenne contre la Russie resteront en place malgré le cessez-le-feu entre le gouvernement ukrainien et les séparatistes dans l'est de l'Ukraine. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole de l'Union européenne, affirmant que Moscou doit mieux faire pour justifier la levée des sanctions.
Voilà pour le journal, il est 18h40 en temps universel, 14h40 ici à Washington, chez Robin Dorcil et Morgane Guériec en votre compagnie. Restez branchés pour les dossiers du jour. Début ce mercredi à Beni, en République démocratique du Congo, du procès très attendu des assassins présumés du colonel Mamadou Ndala. Le 2 janvier dernier, ce haut gradé congolais avait été tué dans des circonstances encore troubles.
Promu général de brigade à titre posthume, celui qui avait mené l'offensive victorieuse contre le M23, Mamadou Ndala, était considéré comme un héros par les populations de l'est de la RDC. La cour militaire de Beni s'apprête donc à juger publiquement les accusés, dont bon nombre de militaires des FARDC. Pour comprendre les enjeux de ce procès, Nicolas Pino a joint Nikesh Kibel Beloka, directeur du journal Les Coulisses.
Oui, le procès est très important, d'abord pour la population. Vous savez que Mamadou a été présenté comme un héros avec la défaite du M23. Pour la population, ce héros-là devait mettre fin aux ADF. Alors le sort malheureux qui s'est abattu sur lui le 2 janvier 2014 a fait que pour la population, il faut nécessairement que toute la lumière, toute la vérité soit faite sur cet assassinat odieux.
La mort du colonel Mamadou Ndala a suscité beaucoup de rumeurs. Quelles sont les hypothèses crédibles selon vous?
Écoutez, là, pour la population, il y a trois faits auxquels elle s'attend. D'abord, il faudra que le tribunal démontre que Mamadou n'a pas été tué par une enquête. Ça, c'est de un. De deux, que les crimes se seraient passés au sein même des FARDC, parce que tous les présumés arrêtés sont notamment soit militaires FARDC, soit population. Et de trois, que les commanditaires et les exécutants soient châtiés. Donc, pour la population, ce qui est plus important, ce n'est pas ce que la voix officielle a dit, qu'il serait tué par les ADF, mais qu'au regard des gens arrêtés, que toute la vérité triomphe et qu'on sache pourquoi on l'a assassiné.
Le procès se déroule devant une cour militaire. Pensez-vous que le procès sera crédible?
Bon, écoutez, jusque-là, il y a un peu de doute. Le maire de la ville, M. Nyoni Bonakawa, a appelé la population à être présente pour que ce procès, selon le CPM, toute l'ombre soit écartée, que la lumière s'efface. La crédibilité du procès, ce n'est pas garanti. Le procès pourra dévoiler certaines vérités, mais vous savez que le juge se fonde sur ses arguments à lui pour rendre le verdict. Donc, le procès va se dérouler normalement, mais quant à la crédibilité du jugement à rendre à la fin, il faut raisonner avec des pincettes.
Voilà, c'est Nikesh Kibel Beloka, directeur du journal Les Coulisses.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano, à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Au Cameroun, les réfugiés sont de plus en plus nombreux. À l'origine, la crise en République centrafricaine et les exactions de Boko Haram au Nigeria voisin. De Yaoundé, les précisions de notre correspondant Jules Elopo.
Le Cameroun accueille actuellement plus de 100 000 réfugiés, constitués essentiellement des ressortissants des pays voisins qui fuient la guerre civile et des atrocités de toutes sortes. Plus de la moitié de ces réfugiés sont centrafricains et vivent dans la région de l'Est. Dieudonné Iva Dibois, gouverneur de la région de l'Est.
Nos frères centrafricains sont aussi les bienvenus sur notre territoire. C'est pour cela que nous avons eu à héberger jusqu'à aujourd'hui certains migrants qui par la suite deviennent réfugiés et d'autres, n'est-ce pas, qui devraient repartir selon leur bon vouloir. Le HCR évolue à nos côtés et en toute synergie, nous pouvons dire que tous les Centrafricains qui ont été, n'est-ce pas, recueillis au niveau de la région de l'Est sont, n'est-ce pas, bien encadrés.
Malgré les efforts du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et du gouvernement camerounais, ces réfugiés vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Madame Ndey Ndour, représentante du HCR au Cameroun.
Entre janvier et maintenant, on a reçu plus de 107 000 réfugiés centrafricains. Au début, le rythme était de 10 000 par semaine. Après, on est passé à 6 000. Maintenant, il y a une réduction, on est entre 3 500 et 4 000 par semaine. 60% des enfants arrivés avec un taux de malnutrition très élevé, les femmes enceintes également. Et ces conditions, la seule chose qu'on avait en tête, c'est de sauver des vies.
En plus des Centrafricains, les Nigérians constituent également une importante communauté de réfugiés vivant au Cameroun. Ces derniers, qui fuient les exactions de la secte Boko Haram, sont surtout installés dans la partie septentrionale du Cameroun, notamment dans la région de l'extrême nord. Une affluence qui suscite des dispositions particulières. Awa Fonka Auguste, gouverneur du Nord-Ouest.
Il y a certaines mesures spéciales, telles que les motos sont interdites à la frontière de circuler entre 17h et 5h du matin. C'est déjà effectif. Et aussi des mesures pour assurer que tous les camions qui quittent le Nigeria pour aller du côté de Chouage, du Tchad, soient dépouillés correctement à la frontière pour voir qu'on n'utilise pas cette voie-là comme couloir de transmission des armes et des munitions. De quoi que sur le terrain, il y a des mesures qui sont vraiment prises.
À cette masse importante de réfugiés s'ajoutent les Tchadiens, les Rwandais et les Congolais qui constituent également des groupes de réfugiés importants. Yaoundé, Jules Lobo pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Au Libéria, des centaines d'étudiants dénoncent la fermeture des établissements scolaires et universitaires et demandent à être associés dans la lutte contre Ebola. Le gouvernement a fermé les principaux lieux publics depuis plusieurs semaines pour prévenir la propagation du virus. Nathalie Barge nous en dit plus.
Les établissements scolaires étant fermés, il est aisé de trouver des milliers de jeunes souhaitant s'engager dans la lutte contre le virus Ebola. Victor Faya est directeur de l'ONG libérienne, département de l'enfance et de la famille. Nous avons reçu les 2000 premiers candidats et nous en sommes maintenant à plus de 4200. Il y a encore beaucoup de jeunes qui se présentent avec leur CV. Ils sont prêts à aller dans tous les comtés et même à marcher pendant 8 heures pour se rendre dans certains villages et parler aux gens dans une langue qui leur est familière, s'adresser à eux de la meilleure manière qui soit, pour qu'ils puissent comprendre la question d'Ebola. Comme d'autres acteurs de la société civile, M. Faya a pris les devants pour éduquer la population sans attendre d'y être invité par le gouvernement. Et il dispose d'un atout de taille, sachant que son ONG peut communiquer avec la population en 30 dialectes. Le 29 septembre, alors que les étudiants manifestaient à Monrovia pour l'ouverture des établissements scolaires, DCF les a appelés à se porter volontaires pour la sensibilisation. Sur le balcon de ses bureaux, des étudiants brandissaient des banderoles et applaudissaient. Gloria Maya Terik était de la partie. Nous sommes venus pour faire la sensibilisation sur le virus Ebola. Nous essayons de lutter contre Ebola, de chasser Ebola de notre pays, le Libéria. Mais beaucoup de jeunes ont exprimé leur frustration sur la fermeture des écoles. Emmanuel Soma est étudiant en sociologie à l'université de Monrovia. Il faut que la communauté internationale intervienne rapidement parce que nous devons aller à l'école. Il nous faut un travail. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Le Libéria est l'un des pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola avec plus de 1800 morts.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Le bilan mitigé de la gouvernance en Afrique, dressé par la fondation Mo Ibrahim, alors que des voix s'élèvent en RDC, au Burundi, au Congo-Brazzaville ou encore au Burkina Faso, contre toute modification de la Constitution destinée à permettre à un chef d'État de se maintenir au pouvoir. Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h10 sur la VOA.
Cap maintenant sur l'Ouganda, le président Yoweri Museveni a démis de ses fonctions le premier ministre Amama Mbabazi. Pour les observateurs, cette mise à l'écart révèle une rivalité croissante entre ces deux acteurs majeurs au sein du parti au pouvoir. Des rumeurs persistantes prêtent à Mbabazi des ambitions présidentielles. Jean-Roger Bion.
Des tensions ont miné pendant longtemps les relations entre le président Museveni et son premier ministre Amama Mbabazi. Finalement, le premier ministre Mbabazi a été remplacé le 19 septembre par l'ancien ministre de la Santé, Ruakana Rugunda. Mbabazi conserve toutefois le poste de secrétaire général du parti au pouvoir, le mouvement de résistance nationale, le NRM. Mbabazi a joué un rôle de premier plan dans l'ascension du président Museveni au pouvoir il y a près de 30 ans. Il fut son compagnon de route pendant les moments de braise. D'après les observateurs de la vie politique en Ouganda, les intentions de Mbabazi de briguer la présidence en 2016 ont provoqué de profondes divisions au sein du parti et cela aurait conduit directement à son limogeage. Faux, clame le porte-parole du gouvernement, Ofwano Opondo, qui dit que les tests du parti ne permettent pas un cumul des fonctions.
Dans ce cas particulier, nous avons appliqué une résolution en vigueur depuis octobre 2010 et nous avions décidé que celui qui est élu secrétaire général du parti ne doit occuper aucun autre poste à temps plein au sein du gouvernement. En réalité, lorsque son nom a été évoqué par le président de la République comme premier ministre, nous lui avons dit « Nous vous avons choisi comme secrétaire général. Acceptez-vous le poste de premier ministre ?» Il a dit oui. Nous avons dit que dans ce cas, nous vous demandons de respecter les textes. Il a répondu qu'une fois que le Parlement m'aura confirmé en tant que Premier ministre, je vais démissionner dans les 3 semaines. Nous avons attendu pendant 3 ans.
Pourtant, à l'intérieur des cercles politiques, les prétentions de Mbabazi à l'élection présidentielle sont un secret de polichinelle. Betty Kamia, le président du parti de l'Alliance fédérale, explique que ses marges de manœuvre au sein du NRM sont limitées.
Ce qui est le plus probable pour moi, c'est qu'il se réconcilie avec le président. Parce que s'il ne le fait pas, il n'aura aucune autre option. Les perspectives ne sont pas bonnes du tout. Il aurait pu sauver sa relation avec le président, gagner du temps et se réorganiser. Je pense que ce serait une option intelligente. Son avenir va dépendre du président Museveni. Si vous admettez que vous avez tort et qu'il a eu raison et que vous êtes désolé et que c'est à lui de décider, il peut vous pardonner et vous ramener. Mais ce n'est pas sûr que Mbabazi fasse amende honorable.
Sans franchir le pas, Betty Kamia pense que l'éjection de Mbabazi de l'appareil du parti n'est qu'une question de temps. Le vice-président du NRM pour la région de l'Est, le capitaine Mike Mukula, a déjà appelé publiquement à sa démission. Le président Museveni lui-même a mis les pieds dans le plat le 28 septembre. Il avait averti que le NRM n'est pas là pour plaisanter et ceux qui veulent semer des troubles dans le parti devraient aller voir ailleurs. Une candidature éventuelle de Amama Mbabazi pourrait être la première menace sérieuse pour le régime du président Museveni depuis 3 décennies.
C'est l'heure de la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. Wizkid, dont le vrai nom est Ibrahim Ayodeji Balogun, est actuellement l'artiste nigérien qui connaît la hausse de popularité la plus rapide dans l'industrie de la musique afrobeat. On l'écoute ce soir dans Karo.
A commencé à faire de la musique à l'âge de 11 ans. Il était alors connu sous le nom de Little Prince. Il changea son nom en 2006 quand sa carrière musicale a décollé.
Oui, Morgan, et c'est aussi il y a 11 ans qu'il a enregistré son premier album produit par l'un des plus grands producteurs de musique à Lagos. Sa carrière n'a réellement décollé qu'en 2009 après qu'il ait signé un contrat de plusieurs millions de naira avec un grand label d'enregistrement nigérien.
Caro, merci Roger.
De rien Morgane, ciao ciao.
Retrouvez Roger Muntou tous les soirs dans le RM Show à 20h, temps universel.
Show me Caro, Eva, Sisi Caro, Eva, where are you Caro, Eva, Show me Caro, Eva, Sisi Caro, Eva, where are you Caro, Eva.
Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique, chez Robin Dorcil et Morgane Guiriec en votre compagnie. Beaucoup plus de musique, Morgane.
Mais la musique, c'est tellement bon en fin d'émission, donc on va s'en écouter un petit peu plus. Je propose House of Exile, Lucky Dubé.
Oui. S'achève le monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Issia Kaba et Lionel Gaïma. Et nous avions à la technique Tian Wang.
Voilà, chez Robin Dorcil et Morgane Guiriec à la présentation. Laissez-nous vos messages sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. A plus.